faire dédire l'apparition de ton Fils sur les nuées du ciel. Nous levons nos yeux vers toi pour te demander ton aide et ton secours. Nous voudrions vivre cette heure vraiment dans ta présence sainte, enveloppée de ton amour, et sentant, éprouvant jusqu'au plus profond de notre être, que tu nous communiques ta grâce. Cette grâce qui sauve, cette grâce qui enseigne, cette grâce qui nous fait vivre, cette grâce qui nous fortifie, cette grâce qui sera parfaitement suffisante dans toute notre vie. Que nous ne soyons pas de ceux qui parlent de la grâce, mais de ceux qui connaissent cette grâce, qui en font l'expérience et qui peuvent vraiment dire que de ta plénitude, ô Jésus, nous avons reçu grâce sur grâce et que nous recevons quotidiennement ces grâces dont nous avons besoin, minute après minute, instant après instant, pour être renouvelés dans nos forces spirituelles, dans nos forces psychiques, comme aussi dans nos forces physiques. Qu'il en soit ainsi ce soir, et que nous passions ces moments dans la joie de ton cœur, en étant occupés des choses éternelles. Connais nos besoins, et par ta parole, nous croyons que tu veux y répondre, en faisant plus et mieux que tout ce que nous pouvons espérer et penser. Notre attente est en toi, nos yeux sont sur toi. Louange à toi, Seigneur. Amen. C'est le jeudi soir, 18 juillet, et nous continuons notre thème, les enseignements du Dieu vivant, et plus particulièrement, ce soir, comment découvrir et contempler le visage de Jésus. Dans le livre des Proverbes, jusqu'à hier, nous avons étudié la première partie de ce livre des Proverbes, et ce matin, nous commencions la deuxième partie, qui était le chapitre 10. Donc ce soir, nous avons le chapitre 11e à considérer. Et ce matin, je vais vous demander combien avons-nous étudié de versets dans la première partie de ce livre. Il y en a 915 dans tout le livre, et alors, combien avons-nous couvert de versets jusqu'à hier soir? Vous n'avez pas eu le temps, je pense, de faire le calcul. C'est pas sorcier. Vous auriez qu'à prendre vos bibles, un petit papier, à moins que vous soyez très fort pour faire les additions comme ça, en visionnant, et d'additionner les versets des 9 chapitres. Ça fait 255. Donc il nous en reste 660. Mais on en a fait déjà 32 ce matin, et nous allons aborder le chapitre 11. Mais je voudrais vous dire une chose avant. On m'a fait remarquer, qu'en vous parlant ce matin, je vous avais dit qu'il m'arrivait, avant le début d'un message, que je sente vraiment ce besoin de m'isoler, de crier à Dieu, avant d'apporter le message que je crois avoir reçu du Seigneur et de l'apporter en public. Parce que c'est une grande responsabilité de parler en public. Et je vous disais que quelquefois, c'était un peu compliqué de pouvoir s'isoler quand on est dans une ville, mais qu'on avait toujours ce secours, les toilettes. pour aller un instant dans les toilettes pour prier. Et il paraît que j'ai oublié de vous dire le reste. Alors vous êtes resté dans les toilettes. Et je vous disais qu'un soir, il m'est arrivé cela, justement, à Lausanne. Vous avez une grande responsabilité. Le samedi soir, j'avais prêché, le dimanche soir, et le lundi soir, c'était la dernière conférence. Il y avait 700 personnes, tous des gens très bien dans la société. Et je sentais que je devais apporter un message qui serait terrible. Alors j'ai eu peur. Je me suis réfugié dans les toilettes quelques instants avant de s'arrêter. Et j'ai crié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je peux pas. Tu me demandes de donner ça, je peux pas. J'avais parlé sur Esdras, qui rétablit l'autel sur ses bases. Ça avait été ma première réunion. La croix à sa vraie place. La croix, non pas comme ornement que l'on porte, mais la croix dans notre vie. L'autel sur ses bases. J'avais parlé le deuxième soir, la maison sur son fondement. L'église bâtie sur le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis le troisième soir, je devais parler d'un texte dans Néhémie, les murailles sur le remplacement. Et je devais parler au sujet de ces murailles. Où avons-nous construit les murailles? Et là, nous les avons construites entre les chrétiens. Il y a des murailles entre les chrétiens, mais nous ne sommes pas tellement séparés du monde. Nous nous sommes mis peut-être dans une tour d'ivoire. Notre groupe est dans une tour d'ivoire. Et puis nous pensons comme ça, nous sommes séparés. Nous sommes séparés. Nous sommes pour le Seigneur. On n'a pas de contact avec le monde, avec les âmes, soi-disant. Spirituellement. Et je devais dire, non, c'est pas ça la vraie séparation. Les murailles, nous devons les placer sur leur emplacement. Où elles étaient. Les murailles ne sont pas entre les âmes. Elles sont entre le mal. Elles nous séparent du mal et du monde, mais elles ne nous séparent pas des âmes, elles ne nous séparent pas les uns des autres. Alors j'avais peur d'apporter ce message, parce que je savais que je n'étais pas conçu ainsi dans le milieu où je prêchais. Et j'ai entendu le Seigneur me dire d'une voix forte, « Ne les crains pas de peur que moi, je ne t'épouvante. » Et vous savez, ça fait frissonner. Là, j'ai senti ce que pouvait être l'épouvante de Dieu. Si toi tu as peur des hommes, si toi tu ne veux pas apporter mon message, parce que tu veux conserver ta position, parce que tu ne veux pas avoir d'ennui, parce que tu veux garder l'affection de tes frères, de tes amis qui pourront peut-être se dresser contre toi, eh bien, c'est moi qui t'épouvanterai. Et vous savez où se trouve ce verset? Dans le chapitre 1er de Jérémie, et le Seigneur me rappelait ainsi que, à ma vocation en 1936, c'est ce chapitre 1er de Jérémie qu'il m'avait donné. Ne dis pas « je suis un enfant », car pour tout ce pourquoi je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je te commanderai, tu le diras. Puis un peu plus loin, c'est, oui, ne les crains pas de peur que moi je ne t'épouvante. Je t'ai appelé pour abattre, pour détruire, pour démolir, mais aussi, ensuite, pour bâtir et pour planter. Et je demande éperdument au Seigneur que ce soit cette phase de ma vie, bâtir et planter, après peut-être avoir dû démolir certaines traditions. Alors je suis allé et j'ai délivré le message. Et évidemment, ça a été la ruée après. Mais peu importe, je ne pouvais pas revenir en arrière. Je dois être fidèle à mon Seigneur. Alors, voilà ce que vous vouliez savoir. Je m'excuse de vous avoir laissé si longtemps dans les toilettes. Et voyez-vous, de nombreuses fois depuis, d'apporter le message, cela m'a valu bien des misères, mais ça ne fait rien. Peu importe, nous voulons rester fidèles à l'exemple des prophètes quand le Seigneur nous dit « va ». nous irons, même s'il nous tue. Je pense à Élie quand le Seigneur lui a dit, va devant Acab et dis-lui, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant, il n'y aura pas de pluie sinon à ta parole. J'aimerais mieux, Seigneur, si on voit quelqu'un d'autre. Quand le Seigneur a dit à Ananias, va trouver dans la maison de Damas, dans la maison de ce nommé Judas, un homme appelé Saul de Tarse, car il prie, mes seigneurs, j'ai entendu parler de lui, il persécute ses serviteurs. Va, je l'ai choisi, c'est un vase d'élection. Il faut obéir au Seigneur. Vous avez demandé aussi ce matin, à la clairière des Indiens, des exemples de paresseux dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de chercher, de trouver. Il y a d'abord le pharaon qui accusait les Israélites d'être paresseux, paresseux, paresseux. Il leur avait retiré la paille et il voulait qu'ils façonnent autant de briques. Et vous avez remarqué que, et du reste nous allons y revenir, 14 fois dans les proverbes, il est question du paresseux. Mais dans les évangiles, Jésus aussi nous parle d'un de ses serviteurs qu'il appelle méchants et paresseux serviteurs. Il leur avait confié des talents à ses serviteurs avant de les quitter. Et il y en a qui ont fait valoir leurs talents, mais le troisième revient vers le Seigneur, vers le Maître, il doit rendre compte, et il lui dit, je sais que tu es un être dur et cruel, etc. Alors j'ai mis ton talent dans la terre, puis maintenant je te l'apporte. Et le Seigneur répond, méchant et paresseux esclave, tu seras jugé par tes propres paroles, tu savais que j'étais un être dur. Bien pourquoi n'as-tu pas au moins placé cet argent, vous savez où? À la banque, parce qu'ils auraient rapporté des intérêts. Tu n'es pas capable de faire valoir les dons que le Seigneur t'a donnés. Et il l'appelle paresseux, esclave. Puis, je vous l'ai dit simplement en passant, il y avait des paresseux chez les Thessaloniciens, des gens qui ne voulaient pas travailler. Aux Romains, l'apôtre Paul avait écrit, quant aux zèles, ne soyez pas paresseux, ou ayez du zèle et non de la paresse. Puis, écrivant à son enfant dans la foi, Tite, qui était en Crète, l'apôtre Paul cite un auteur crétois qui lui-même disait, les Crétois sont de méchants bêtes, des ventres paresseux. Les Crétois, eh bien, avaient ce témoignage-là des paresseux et même des méchantes bêtes. Et vous voyez que Paul ne se gêne pas de prendre une citation d'un auteur païen. Toujours menteur, qu'il dit. Ventre, paresseux. Puis alors, comme nous vous l'avons dit, quelqu'un l'a souligné, il peut y arriver, par exemple, David a eu un moment de paresse et c'était l'occasion d'une chute. Et il y en a bien d'autres que vous pouvez trouver et que je vous signale simplement, mais dans l'Épître aux Hébreux, à deux reprises, nous sommes exhortés à ne pas être paresseux. Vous êtes devenus lents à écouter. Vous êtes devenus paresseux. Et nous sommes invités à ne pas nous relâcher et à ne pas être paresseux. Maintenant, nous lisons notre texte. Chapitre 11. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Il y a des commerçants parmi vous? Il y en a qui emploient la balance? Alors, sentez-vous concernés? La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Mais les poids justes lui sont agréables. Est-ce que vos poids sont justes dans votre travail? Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle, les gars. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Je vous ai demandé de retenir le texte qui vous concerne, le texte qui, dans notre lecture, parle à votre conscience et à votre cœur, le texte qui vous interpelle. Verset 16. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Je vous ai demandé aussi de réfléchir sur les faits que vous trouvez dans la Bible ou dans l'histoire, même profane, qui peuvent illustrer et éclairer ces passages. La postérité des justes sera sauvée. Verset 22. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une belle femme, mais dépourvue de sang. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants
c'est l'assurance.
Celle qui donne libéralement devient plus riche, et celle qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Faudrait peut-être maintenant nous arrêter et nous poser la question, quel est le verset qui vous arrête? Quel est le verset qui vous parle dans ces 31 textes? Est-ce qu'il y a une parole qui vous concerne, ou bien est-ce que vous dites, moi, ça ne me touche pas, je trouve déjà que c'est trop long, que ce sont des pensées qui s'ajoutent les unes aux autres, mais il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de liens entre ces paroles, ou bien est-ce que vous vous êtes mis à l'écoute du Seigneur en lui disant, quel est le verset que tu m'appliques à moi? Parce que c'est ainsi qu'il faut lire l'Écriture. J'ai donné aussi une autre règle. Il faut bien comprendre le sens des mots. Est-ce qu'il y a des mots que vous avez eu de la peine à comprendre? Mais une balance, vous savez ce que c'est. Et une balance fausse, vous connaissez ça aussi. Mais quand vous faisiez quelque chose, comment faites-vous? Comme un vieil ami de mon père, qui était un brave chrétien, mais qui, quelquefois, au fond, disait des bêtises. Il était un brave chrétien, mais il était avare. Et il avait, hélas, oui, ce défaut de l'avarice, mais il ne s'en rendait pas compte. Et ils avaient un verger où il y avait des arbres fruitiers, et dans la saison où il y avait des pruneaux, vous savez ce que c'est que les pruneaux? Eh bien, il vendait ces pruneaux dans les villages. Et puis, on l'a accusé, justement, de ne pas mettre le poids. Alors, il a dû aller au tribunal de la contrée où je vivais. Ça a apparu dans les journaux, c'était très amusant, parce que moi, j'étais encore enfant, j'étais jeune. Mais, enfin, on comprenait quand même ce que ça voulait dire. Il a dit au juge, mais c'est pas possible que je ne mette pas le poids. Parce que, quand on me fait une commande, je mets tout de suite deux pruneaux, d'abord. Dans la balance. Je mets deux pruneaux d'abord. Alors, le poids, ça doit être juste. Il n'était pas les deux pruneaux après. C'est pas, il les mettait avant. Vous avez compris? Il croyait très sur le fait. Il expliquait ça à mon père, mais je lui dis ça. Ils veulent pas me croire. Le poids n'était pas. Mais vous voyez comment on peut être tordu. Même tout en étant chrétien, puis c'était un homme qui aimait les prophéties, puis demandait mon père pour qu'il aille lui expliquer l'Apocalypse, le livre de Daniel, etc. C'est un mordu des prophéties. Mais hélas, lui et sa sœur étaient avares. Et quand elle est morte, elle, on a trouvé dans le bas de sa vie des trésors. Écoute. L'avarice. Mais ça chantait les cantiques du respect, c'est merveilleux. Et on aimait l'argent. Alors la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Vous pouvez chanter vos cantiques. Mais si vous n'êtes pas juste dans vos relations avec le monde pour donner vraiment avec justice comme un chrétien doit le faire, votre péché vous trouvera. Le Seigneur a en horreur la fausseté. Alors, commerçant, si vous êtes commerçant, tenez-le pour vous. C'est une abomination de ne pas donner ce qui est juste et équitable. C'est du vol. Avoir des poils justes. C'est ça qui est agréable au Seigneur, plus que de chanter des cantiques. C'est aussi agréable au Seigneur d'entendre des cantiques, mais des cantiques qui sortent d'un cœur intègre, dans ses affaires, parce que le monde vous connaît dans vos affaires. Et si bien des gens ne veulent pas croire au Seigneur, c'est parce qu'ils disent, ces chrétiens, ils sont encore pire que les autres. Et voilà ce que les proverbes nous déclarent. Prenez maintenant le verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les uns. Alors, être humble, c'est être vraiment ça. Mais vous me direz, mais comment être humble? Moi, je voudrais bien être humble, mais au fond, j'ai cette tendance à l'orgueil. Ben oui, moi aussi. J'ai toujours cette tendance à l'orgueil. Mais je sais que quand vient l'orgueil, même chez le chrétien, quand vient l'orgueil, qu'est-ce qui vient aussi? Il vient aussi l'ignominie. Il vient aussi l'ignominie parce que Dieu ne peut pas donner sa gloire à un autre. Et si je commence à m'élever, c'est le commencement de ma fin. Donnez-moi un exemple. Je vous ai dit, cherchez vos exemples aussi dans l'Écriture. Je pense à Saül. Samuel lui dit dans le chapitre 15, du premier livre de Samuel, « Quand tu étais petit à tes yeux. » C'est là qu'il était grand. Je me souviendrai toujours aussi d'un prédicateur qui était bien réputé, mais un jour quelqu'un a dit de lui, et il le lui a dit à lui-même, « Tu avais de la puissance quand tu étais petit à tes yeux. » Mais maintenant qu'on dit que c'est un grand prédicateur, c'est plus du tout la même chose. L'orgueil l'avait. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Et bien souvent, quand l'orgueil nous prend, eh bien, il y a la chute qui va venir. Peut-être une chute, un péché dans la chair, que sais-je encore. Ça ne donne pas son parfum. Comment être un... Bien, regardez le Seigneur. Regardez-vous dans la lumière du Seigneur. Je dis, mais comment est-ce possible qu'il puisse m'aimer moi, alors que je suis si retors, j'ai tous ces défauts-là, qu'il m'aime quand même. Oui, il m'aime. Et il me dit qu'il a prié pour que je me sente aimé de Dieu, de son Père, comme lui-même était aimé. C'est ce que nous avons vu ce matin. Vous devez ressentir, vous devez croire ce soir, vous devez avoir cette conviction que le Père vous aime comme il aimait qui? Son Fils. Si vous voulez savoir la mesure de l'amour de Dieu, regardez, pensez à l'amour que le Père pouvait avoir pour son Fils, ça c'est compréhensible, et dites-vous, eh bien, Jésus m'affirme que son Père m'aime comme lui-même était aimé. Pas de différence. Dieu vous aime comme il aimait Jésus. Est-ce que c'est difficile pour vous de penser qu'il aimait Jésus? Non, il était parfait. Eh bien, malgré vos imperfections, vous êtes aimé du même amour, parce que Dieu a décidé dans son cœur qu'un jour vous seriez conforme à son. Alors ne vous regardez pas vous-même maintenant dans ce que vous êtes, mais regardez Jésus et sachez que c'est comme il est que vous serez un. Vous le verrez comme il est. Lui qui a commencé une bonne œuvre dans son cœur, il vous promet qu'il l'achèvera. Mais alors, qu'était-il le Seigneur? Il était doux et humble. Ne détruisez jamais le caractère du Christ dans vos vies. Restez humble. Mais comment être humble? Eh bien, c'est en restant dans la lumière du Seigneur. On a une piètre idée de nous-mêmes. On glorifie le Seigneur. Puis quand on voit les autres, on se dit vraiment, les autres nous sont supérieurs. Et c'est bien ce que Paul nous dit dans les Philippiens, au chapitre 2, qu'il faut estimer son prochain supérieur à nous-mêmes. Et comment est-ce que je peux estimer mon prochain supérieur à moi-même? J'essaie d'être dans la lumière du Seigneur. Alors, je pense que les autres sont bien supérieurs à moi. Ça, c'est évident. Et c'est vrai. Mais, pour autant, nous n'allons pas faire un complexe d'infériorité. Comprenez-vous? Mais on dit que c'est vrai. Alors, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et c'est peut-être le moment de rappeler le verset central de ce livre des Proverbes au chapitre 16e, le verset 18e, qui est de ces 915 versets, le verset central du livre. L'arrogant précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ou l'orgueil va devant l'écrasement. Alors vous êtes averti. Et vous savez que ce péché d'orgueil, eh bien, amène la résistance de Dieu. Mais quand vous êtes humble, eh bien, vous avez la grâce. Il fait grâce aux autres. Ça, c'est plus loin. L'intégrité des hommes droits les guérit. Être intègre, être vrai dans nos sentiments, être vrai à l'intérieur et être vrai à l'extérieur. Il n'y a plus d'hypocrisie. L'intégrité des hommes droits les guérit. Nous voulons être dirigés, eh bien, marcher dans la droiture. Le Seigneur disait dans la vérité et dans la droiture. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Je ne vais pas commencer à sortir tous les textes qui pourraient me venir à l'esprit, mais je vous les indique quand même. L'intégrité des hommes droits les dirige. Trouvez-moi un homme droit qui était dirigé malgré toutes ses épreuves. Abraham. Oh, Jacob, oui, mais il était un peu retors, hein. Là, il a fait des escroqueries. Mais voyez, Genèse, l'intégrité des hommes droits les dirige au travers de toutes ces épreuves parce qu'il était intègre, parce qu'il était droit, parce qu'il a pu dire à la femme de Potiphar, comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal contre Dieu? Il n'a pas pris des détours. C'était un homme droit. L'intégrité des hommes droits les dirige. Prenez Daniel, un homme droit. On a contrôlé ses livres, on pouvait rien trouver. Le monde ne pouvait rien trouver contre lui, ses ennemis. Et il était dirigé parce qu'il était droit. Le Seigneur était avec lui. Et il est un témoignage pour le roi des Mèdes et des Perses. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Bien pensé à Saül, que de détours cela a causé sa ruine. Au jour de la colère, verset 4, hein, la richesse ne sert de rien. Et c'est vrai, ça. Lot avait convoité les plaines de Sodome. Il avait déjà de grands biens. Il a pensé, mais si je suis dans cette ville prospère, j'en aurai encore davantage. Mais il n'a pas pensé, il n'a pas été arrêté par la méchanceté des gens de Sodome. Et il savait pourtant que ces gens de Sodome étaient de grands pécheurs auprès d'Éternel. Mais les affaires sont les affaires. Et si je veux faire prospérer mes affaires, j'irai m'installer là. Peu importe, tout le monde est pécheur, hein, dit-on. Alors on s'installe là. Et on place nos propres enfants devant toute espèce de tentation. Bien sûr, lui ne tombait pas dans les péchés de Sodome. Il tourmentait chaque jour son âme juste. Mais enfin, son influence sur le peuple de Sodome fut absolument nul. Quand il a voulu leur parler, on a dit, cette espèce d'étranger qui veut faire la loi parmi nous, on lui a fermé la bouche. Et alors, sa richesse, au jour de la colère, quand la colère est venue sur Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? Ses richesses à ce pauvre Lot
Où sont-elles restées? En Sodome. Et c'est ici, dans le camp que nous faisions, là, dans le camp familial que dirige Françoise et son mari, Josaphat, que nous avons entendu une petite fille quand on racontait cette histoire, hein, en disant, mais pourquoi est-ce que la femme de Lot tardait, qu'il a fallu que les anges prennent cette femme pour la tirer hors de la ville? Pourquoi est-ce qu'elle attendait comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas partir? Alors une petite fille a dit, mais elle attendait un trailer. Elle voulait me porter quelque chose. Hein. Elle ne partait pas parce qu'elle voulait le trailer. Hein. Parce que les enfants comprennent bien ça. Son cœur était à Sodome. Et même quand elle est partie, c'est qu'elle s'est retournée pour voir si le trailer arrivait. Et elle est devenue une statue de... Les enfants comprennent. Au jour de la colère. Hein. Je prends seulement cet exemple, mais il y en aurait une foule d'autres que vous trouvez dans l'Écriture. Au jour de la colère, est-ce que la richesse vous sert de quelque chose? Vous sert de rien. Vous avez des biens, vous avez de l'argent, vous avez tout, mais quand le jour de la colère est venu. Et alors, qu'est-ce qui vient? Ce jour de la colère, il vient sur quoi? Nous attendons Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. La colère vient sur le monde. Et alors nous amassons des richesses, pour qui? Vous les prendrez au ciel avec vous? Vous prendrez vos valises quand vous entendrez le son de la trompette? Seigneur, je vais monter, mais laisse-moi prendre des valises. Donne-moi un peu plus de puissance pour que je décolle. Mais je décolle avec mes valises. Hein? Alors vos richesses, vous allez les laisser. Et qui va en profiter? L'Antichrist. Les chrétiens auront financé les œuvres de l'Antichrist. Travaillez avec les biens que vous avez, j'espère que je viens. Ah, vous savez, chers amis, ça nous parle à tous. Je me sens moi-même interpellé. Je suis pas contre les économies, mais quand on veut en mettre trop de côté, puis qu'on dit qu'on attend le Seigneur, vous n'allez pas prendre vos biens avec vous. Mais ces biens que vous avez, vous pourriez les faire valoir maintenant. Vous pourriez en disposer pour être utile à votre prochain, mais vous allez dire, mais on va se dépouiller. Il faut bien qu'on garde une poire pour la soif, même si on attend le Seigneur. Et vous voyez, la colère vient sur le monde. Alors, au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, de sorte que les richesses des chrétiens devraient être mises, se mettre à travailler pour le Seigneur. Investissons dans ce qui est éternel. Et le salut des âmes, c'est quelque chose d'éternel. Le bien de notre prochain, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur, puisque nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors vous voyez, chacun de ces versets a une puissance pour nous parler. La justice délivre de la mort, bien sûr. Lot, parce qu'il était quand même un homme juste, a été délivré de la mort. Et il y en a d'autres qui ont été délivrés de la mort. Par cette justice qui est la justice de la foi. Car si Noé a été délivré de la mort, c'est pourquoi? Parce qu'il a sa justice. Il est dit que Noé était un homme juste. Il était parfait parmi ceux de son temps. Mais cette justice, eh bien, elle venait de sa foi. Il a cru la parole du Seigneur que le déluge allait venir. La justice. Justice par la foi l'a délivré de la mort. Et il y en aurait d'autres. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Donc, si je veux que mon chemin s'aplanisse, dans quoi dois-je vivre? Dans la justice. La justice pratique. La grâce nous enseigne à vivre dans la justice vis-à-vis de nos frères. Pas d'injustice, pas faire souffrir nos frères d'injustice, plutôt souffrir nous les injustices, mais pas faire souffrir nos frères d'injustice.
la justice de l'homme intègre aplanit sa voie. J'ai pas besoin d'essayer moi-même d'aplanir ma voie. J'ai qu'à marcher dans la justice. Et je verrai le Seigneur aplanir ma voie. Mais le méchant tombe par sa méchanceté. Là encore, on pourrait donner bien des exemples. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Je pense à Mardoché. Lisez le livre d'Esther. Mardoché avait un chemin très difficile, ce juif, au temps de l'antisémitisme d'Aman, au temps du roi Assuérus. Eh bien, il a vécu dans la justice. Et c'est cela qui a aplani sa voie. Mais son ennemi qui voulait sa mort, bien, c'est lui le méchant Aman. Il est appelé ce méchant Aman. Il est tombé par sa méchanceté. C'est par sa propre méchanceté qu'Aman est tombé. Il avait fait déjà dresser le gibet pour pendre Mardoché. Et qui est-ce qui a été pendu à ce gibet? C'est lui-même. Alors, vous voyez que ces versets s'éclairent par ces exemples. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. C'est la même pensée, il n'y a pas besoin de s'arrêter longuement là. À la mort du méchant, son espoir périt. Le verset 7, à sa mort, à Aman, qu'est-ce qu'il avait comme espoir? Il n'avait plus rien. Et la tente des hommes uniques est anéantie. Ah, mes amis, vous savez, si vous refusez de vous convertir au Seigneur, si vous dites, oh ben moi, si vraiment c'est vrai, ça, je me convertirai plus tard, demain ne vous appartient pas. Plus tard, ce sera trop tard. Plus tard, ça peut être trop tard. Allons plus loin. Verset 8. Le juste est délivré de la détresse, le méchant prend sa place. Et voilà. Dans ce chapitre, vous pouvez prendre souvent Aman et Mardoché. C'est Aman et Mardoché qui illustrent bien plusieurs de ces versets. Vous pouvez prendre aussi Daniel. Daniel, le juste est délivré de la détresse. Il a été jeté dans quoi, Daniel? Dans la fosse aux lions. Et qui est-ce qui a pris la place? Ceux qui l'ont fait jeter dans la fosse aux lions. Ses ennemis, ils ont pris la place, mais ils n'ont pas eu le même traitement. Verset 9. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la connaissance. Et cela est vrai aussi bien en politique qu'en morale et qu'en religion. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Si je prends l'histoire profane et que je vois un homme comme Hitler, eh bien, par sa bouche. Oh, vous n'étiez pas né la plupart, hein. Mais si vous aviez entendu les discours d'Hitler, cette voix rugueuse qui faisait trembler l'Europe, il perdait son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. Qu'est-ce que je mettrais en opposition à cet homme et à tant d'hommes que vous trouvez dans la Bible qui ont été des impies et qui ont blasphémé? Eh bien, j'y mettrai de nouveau Joseph. Joseph, les justes sont délivrés par la science, par la connaissance. Joseph a été délivré au travers de toutes ses épreuves parce qu'il restait dans la connaissance de Dieu. Verset 10. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Trouvez-moi une ville qui a connu un temps de joie dans l'Écriture. Oui, aussi, mais plus près de nous. Je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. La joie de Bethléem, n'est-ce pas? La joie de Bethléem, la joie pour ces justes, pour ces quelques-uns qui attendaient la consolation d'Israël. Ils étaient heureux. Le Seigneur qui avait été promis était né. Les bergers étaient heureux dans les champs de Bethléem. Et ils se sont rendus à la ville. La ville était dans la joie. Pour ces justes, quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Tiens oui, quand après la Deuxième Guerre mondiale, ces hommes qui ont fait trembler le monde, quand on a su qu'ils étaient morts, il y avait des cris d'allégresse dans ce que vous appelez les vieux pays. Ces hommes qui menaient le monde à la ruine, qui massacraient des milliers d'êtres, des millions d'êtres. Il y a eu des cris d'allégresse, c'est vrai. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. C'est pourquoi il est dit que le témoignage chrétien dans une ville, eh bien, travaille à la prospérité de la ville. Si nous ne faisons pas de fraude, si nous payons nos impôts et même nos taxes malgré tout, eh bien, c'est cela notre politique. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, des hommes qui reconnaissent que les autorités, même si elles exagèrent, semble-t-il, eh bien, les autorités sont quand même un bien, elles ont été données par Dieu, et alors la politique d'un vrai chrétien d'être soumis aux autorités, de payer son impôt à qui nous devons l'impôt, etc. Vous avez le chapitre 13 des Romains qui illustre cela. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Et ces hommes droits, ben, ça nous concerne. Est-ce que nous sommes droits, nous, en tant que chrétiens? Mais elle est renversée par la bouche des méchants qui vous disent n'importe quoi, même contre l'État. Nous n'avons pas à parler contre l'État, nous avons à prier pour ceux qui nous gouvernent. Parce que la bouche des méchants, eh bien, elle renverse la ville. Verset 12. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sang. Pour quelle raison? Qu'est-ce que Dieu nous a commandé? D'aimer notre prochain. Hein? Et si vous le méprisez, vous n'avez pas de sang. Vous êtes contraire à la pensée de Dieu. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Il y a des moments où justement nous ne pouvons pas du tout approuver certaines choses, mais nous devons aussi nous taire. Quelquefois il faut parler, mais quelquefois il faut aussi se taire. Celui qui répand la calomnie dévoile des secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand on vous dit un secret, quand on a confiance en vous et qu'on s'ouvre à vous, est-ce que vous garderez le secret? C'est terrible. On est en amitié, alors on se parle, et puis on révèle peut-être certaines choses, on partage. Puis voilà que, au bout de quelques temps, il y a une difficulté qui surgit entre vous et la personne à qui vous avez révélé cette chose. Puis voilà, il y a la brouille, elle ne vous voit plus. Mais vous lui aviez révélé quelque chose. Que va-t-elle faire, cette personne? Parce que, elle a été blessée parce qu'elle n'est plus maintenant dans les meilleurs termes avec vous. Elle va raconter ce que vous lui aviez confié. Vous trouvez que c'est beau, ça? C'est pas parce que vous avez une difficulté avec cette personne que vous allez après répondre toutes sortes de paroles sur elle. Celui qui répand la calomnie, parce que là, nous calomnions. Vous dévoilez des secrets, on vous avait confié cela, c'est pas parce que maintenant vous avez une difficulté avec cette personne que vous devez dévoiler ce qu'elle vous avait dit. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Est-ce que nous avons l'esprit fidèle? On peut avoir des difficultés, mais nous devons avoir l'esprit fidèle et les garder. On ne veut pas faire du mal, même à quelqu'un qui nous a fait du mal. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Alors là aussi, vous avez été enseigné au sujet de la prudence. Eh bien, si cette prudence fait défaut, c'est tout le peuple qui en subit les conséquences. Mais le salut, est-il dit, est dans le grand nombre des conseillers. on verra ailleurs encore les conseillers revenir. Qu'est-ce que c'est que ce salut qui est dans le grand nombre des conseillers? Bien, il nous faut, avant de décider quelque chose, eh bien, il nous faut nous entourer justement, peut-être de conseils, mais en gardant bien dans la pensée que le Seigneur va nous donner sa direction. Et en final, on ne suit pas les conseils qu'on nous donne nécessairement, mais on suit la conviction que le Seigneur nous a donnée. Heureux sommes-nous si les conseils que nous avons reçus confirment ce que le Seigneur lui-même nous a dit. Parce que il faut faire très attention aussi aux conseillers que nous consultons. Il faut que ce soit des hommes droits et des hommes intègres et aussi des hommes d'expérience. Des hommes qui ont une expérience de la vie et qui sont absolument désintéressés dans leurs conseils. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas désintéressés. Et ils donnent des conseils parce que ça vous garde peut-être dans une certaine situation où ils pourront encore vous diriger. Alors on vous conseille d'une certaine manière. Il faut que nous soyons absolument désintéressés quand nous donnons des conseils, qui n'est pas une pensée, une arrière-pensée ou une réticence mentale. Puis nous arrivons au verset 15. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal. Alors là, nous avons déjà parlé du cautionnement. Pourquoi nous ne devons pas cautionner? Alors cela vous éclaire, cela est un simple rappel. Mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. C'est une confirmation. Et pas si tu t'es engagé déjà, eh bien dégage-toi. Mais maintenant, quand on revient à la charge, tu crains d'engager, de t'engager, tu es en sécurité. Puis voilà tout à coup de nouveau une femme. Et je vous répète que le livre des Proverbes se termine par l'éloge d'une femme, oui, mais d'une femme vraiment vertueuse. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Mais nous voulons espérer que c'est la gloire de Dieu. Une femme qui a de la grâce. Est-ce que vous désirez être une femme, mes sœurs, qui avait de la grâce? Qu'est-ce que c'est de la grâce? Avoir de la grâce. Plaire au Seigneur. Alors vous obtiendrez la gloire. Il donne la grâce et il donne la gloire. Il ne donne pas comme le monde d'hommes. L'homme bon fait du bien à son âme. Qui est l'homme bon par excellence? Jésus. Un seul est bon. Un seul est bon. C'est le titre que je donnerais vraiment à ce chapitre. L'homme bon. Si ce matin nous avons donné comme titre le juste, je dirais maintenant l'homme bon. Il y a bien d'autres choses au sujet de Jésus dans le chapitre. Mais je vois l'homme bon parce que quand le jeune homme riche lui dit « Bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle ?» Que lui répond Jésus? « Pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. » C'est Dieu. Mais Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Alors l'homme bon fait du bien à son âme. Oh, le Seigneur était la bonté même. Et il se réjouissait. Il se faisait du bien à son âme, toute cette bonté et qu'il manifestait. Il y avait des moments où son cœur était dans l'allégresse et où il se réjouissait. Et puis nous, si nous suivons Jésus dans la bonté, nous ferons aussi du bien à notre âme. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. La troubler sa propre chair, c'est sa chair mortelle. Si nous avons de la cruauté, bien, il est bien possible, il est bien probable que nous soyons atteints dans notre propre chair par une maladie ou par autre chose qui troublera notre propre chair. Ne devenez pas cruel, parce que vous attirez sur vous un jugement qui vous amènera des tribulations dans votre propre chair. Le méchant fait un gain trompeur. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. en croit quelquefois, n'est-ce pas, en prenant le chemin des méchants, que nous allons gagner davantage. Mais ce gain que vous avez par l'iniquité, c'est un gain trompeur. Tandis que si vous semez la justice, c'est là que vous aurez un gain véritable. Êtes-vous des semeurs de justice? Vivre dans la justice, marcher dans la justice, semer dans la justice. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve quoi? La mort. Celui qui poursuit le mal trouve la mort. Voyez-vous, l'homme qui marche avec le Seigneur, il accomplit l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est toute l'œuvre de notre vie. C'est une œuvre de vie. Tandis que l'œuvre des méchants, c'est une œuvre de mort. Hein? L'œuvre des méchants, c'est une œuvre de mort. Et l'œuvre d'un homme, eh bien, c'est l'ensemble de sa vie. Mon œuvre, c'est l'ensemble de ma vie. Mon œuvre n'est pas achevée. Tandis que Paul peut dire, arrivé à un moment donné, j'ai achevé l'œuvre. C'est l'œuvre de sa vie. C'est toute sa vie. J'ai achevé l'œuvre. L'œuvre d'un homme, ben, c'est toute sa vie. Voilà notre œuvre. Allons plus loin, rapidement. Ceux qui ont le cœur pervers, verset 20, sont en abomination à l'Éternel. Nous aurons l'occasion de revoir ce que sont ces abominations. Mais avoir le cœur pervers, c'est-à-dire marcher dans nos propres voies, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu regarde à quoi? Au cœur. Il voit ce qui se passe dans le cœur. Ceux qui ont le cœur pervers est en abomination aux yeux de l'Éternel. Ils voient les choses. Est-ce qu'il y a une abomination dans mon cœur? Mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. C'est pas compliqué, je crois, qu'on peut passer, être agréable au Seigneur. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Comment lui être agréable? Qu'est-ce qu'il est dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 10, un sujet que Josaphat m'avait proposé pour une retraite une fin de semaine? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. On l'avait fait à part ça et Branch. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, mais c'est chaque jour que nous devons examiner ça. Dans un monde tel que celui où nous vivons. Certes, verset 21, le méchant ne restera pas impuni. On ne voit pas tout de suite peut-être la punition, mais vous pouvez être sûr que le méchant ne restera pas impuni. Alors ne portez pas envie aux méchants. Mais la postérité des justes sera sauvée. Les méchants du temps de Noé ne sont pas restés impunis. Les méchants du temps de Lot ne sont pas restés impunis. Mais la postérité des justes a été sauvée. Noé et les siens, comme aussi Lot et ses filles, malgré tout. Verset 22, c'est pas très joli. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sang. Une femme belle qui n'a pas de bonté, ça va pas ensemble. Cette beauté qui n'est pas accompagnée de bonté, eh bien, ça ne va pas ensemble. Ça vous fait l'effet d'un anneau d'or au nez d'un porc. C'est la parole qui le dit. Alors, demandez au Seigneur de ne pas seulement avoir de la beauté, mais avoir de la bonté. Parce qu'il y a des hommes qui ont voulu épouser une femme très belle. Et cette femme très belle qu'ils ont voulu, pourquoi? Pourquoi qu'ils ont voulu cette femme très belle? Ah, ils sont glorifiés. Mais alors le pourceau, qui est le pourceau ici? C'est l'homme. Il a une belle femme. Mais ça lui va comme un anneau d'or à son nez de pourceau. Alors vous voyez, les hommes, ils ne sont pas bien traités non plus. Alors, n'épousez pas quelqu'un simplement pour sa beauté. Et il est dit, le charme d'un homme, c'est quoi? C'est sa beauté. On va le trouver un peu plus loin. Alors, ne pensez pas seulement à la beauté de quelqu'un. Parce que la beauté, ça se fanlit. Alors, aimez l'homme pour sa bonté. La bonté qui vient de Dieu. Verset 23, le désir des justes, c'est seulement le bien. Hein? C'est seulement le bien. Si vous avez un désir où vous savez très bien que c'est pas bien, alors, vous le mettez de côté. C'est pas un désir de juste. Le désir des justes, c'est seulement le bien. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il veut toujours le bien. Lui, le seul juste. Eh bien, si nous sommes justifiés en lui, nous voulons le bien. Tandis que l'attente des méchants, c'est la fureur. Qui vient sur les méchants, c'est la fureur. La colère de Dieu. Verset 24. Celle qui donne libéralement devient plus riche. Vous le croyez? J'aimerais seulement vous dire ici, on ne se ruine pas en donnant. Prenez ça comme un motto. On ne se ruine pas vraiment en donnant. Tandis que celui qui épargne avec excès, il n'est pas dit qu'il ne faut pas épargner, hein, mais il y a une juste mesure, et c'est ça que la parole de Dieu nous donne, un équilibre. Ne sois pas juste à l'excès, ne fais pas le sage juste mesure. Reste dans l'équilibre, dit l'Écriture. Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est tellement vrai. Et quand on a donné, le Seigneur donne davantage. Vous pouvez penser à Malachie, chapitre 3, verset 10. Hein? Mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur. Avec les vos dîmes, et vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne verse pas la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de plats. Mais mettez-moi à l'épreuve. Et nous continuons. L'âme bienfaisante sera rassasiée. C'est quelque chose de très beau. L'âme bienfaisant. Est-ce que nous avons une âme bienfaisante ou une âme malfaisante? L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera arrosé. L'apôtre Paul cite ce texte des Proverbes dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 9, justement au sujet de la libéralité. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur celui qui le vend. Alors, s'il y avait là des hommes d'affaires, je vous dirais, méditez sur ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas vous livrer à la spéculation. Ne pas vous livrer à la spéculation. Vous voyez, on retient le blé parce qu'on pourra le vendre plus cher. C'est ça. Il y a des enseignements donc pour la vie pratique, pour tous les domaines. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint lui-même. Là encore, vous trouverez vous-même des exemples pour illustrer ce verset 27. Voyez-vous, on a des biens pour faire quoi? Du bien. Heureux ceux qui ont des biens et qui peuvent faire du bien. Celui qui se confie dans ses richesses, verset 28, tombera. Vous le savez, on ne peut pas se confier dans nos richesses. Parce qu'elles prennent des ailes, bien vite, tout disparaît. Mais les justes verdiront comme le feuillage. Notre richesse, on chante, notre richesse et notre gloire, c'est. Et si vous êtes devant lui et que vous vous occupez de lui, lui s'occupera de vous et vous donnera le nécessaire. Et là, vous pourriez illustrer ce verset par le psaume premier, comme aussi par Jérémie au chapitre 5, comme aussi d'autres passages qui vous montrent que le juste est comme un arbre et qui croît, qui verdit. Psaume 92, verset 13e. Mais celui qui trouble sa maison, quelle responsabilité? Qu'est-ce que j'amène dans ma maison? Homme ou femme, mari ou femme, est-ce que nous amenons du trouble dans la maison? Bien, est-ce que nous amenons la paix? Celui qui trouble sa maison, c'est notre première responsabilité. Seigneur, garde-moi de ne pas troubler ma maison. Pour que mes enfants aussi puissent toujours y trouver la paix. Et que je n'hérite pas du vent. Qu'est-ce que c'est hériter du vent? Vous vous rendez compte? Et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Ça, croyez-moi. Ne perdez pas cette place. Parce que si vous devenez un insensé, vous serez l'esclave. Le fruit du juste est un arbre de vie. Qu'est-ce qu'on a vu qui est un arbre de vie? La sagesse. Alors, si c'est un arbre, eh bien, cet arbre donne du fruit. Et c'est quel fruit? Le fruit du paradis. Le fruit de l'arbre de vie. Alors, lisez dans l'Apocalypse. Ce fruit, il apportera dans le futur la guérison à toutes les nations. Et il rend son fruit chaque mois. Quels sont nos fruits? Des fruits annuels ou des fruits mensuels? Il rend son fruit chaque mois. Il y a un renouvellement constant. Puis qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Le sage s'empare des âmes. Qui a été le sage qui s'est emparé des âmes? Jésus s'est emparé des âmes. Avec des armes? Il y a des héros, soi-disant, qui s'emparent des villes. Mais pour s'emparer des villes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des armes, il faut faire couler du sang. Jésus, lui, sans armes, il s'est emparé des âmes. Son arme, c'était une arme spirituelle, la parole de Dieu. Nos armes à nous, ce sont aussi les paroles du Seigneur. Les paroles du Dieu vivant, ce sont nos seules armes. Allons de l'avant avec ces armes-là et nous nous emparerons des âmes pour le Seigneur. Voici le juste reçoit sur la terre sa rétribution. Vous pouvez croire cela, même si vous devez attendre. Mais si c'est vrai que le juste reçoit sa rétribution sur la terre, combien plus aussi les méchants? Il y aura un jugement pour les méchants. Alors, soyons de ceux qui deviennent justes par le Seigneur. Ô Dieu, nous nous rendons compte que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien produire. Nous venons d'entendre ta parole. Accorde-nous la grâce de la recevoir comme étant ta parole. Éclaire-nous toi-même sur notre propre état, sur notre propre cœur. Et montre-nous, à l'issue de cette rencontre, une parole dans ces 31 versets qui avait quelque chose à nous dire. Nous pourrons peut-être oublier les autres, mais que ce soir, nous recevions au moins une parole, afin que demain, nous soyons disposés pour recevoir davantage de ce que tu as à nous dire toi-même par ce qui va suivre. Renouvelle-nous. Donne-nous le goût de cette parole. Malgré peut-être les difficultés qu'elle nous fait rencontrer ou une certaine monotonie, permets-nous de trouver dans cette parole cette épée à deux tranchants qui pénètre jusqu'à nos jointures et à nos moelles et qui s'applique à notre vie quotidienne, à nos relations avec le monde, là où nous sommes connus, là où nous devons travailler, là où nous devons œuvrer, que l'on puisse voir que nous vivons ce que nous prêchons. C'est la grâce que nous te demandons. Sois ici, sur la terre, le seul bon. Donne-nous d'être les disciples de celui qui est bon.